Bonjour à toutes et tous. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. Là, j'ai entendu tellement de choses que je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire. Surtout, Adrien a commencé, il a dit qu'il avait tout résumé ce que Jésus disait de l'Église. Donc, voilà. Et en plus, c'est toujours un peu redoutable de venir avec des thèmes qu'on sait qu'ils sont partagés par plusieurs personnes et on n'a pas entendu ce que les autres ont dit avant. Et vraiment, ce thème, l'Église que Jésus avait en tête, ça m'a un peu fait travailler. C'est bien. Et peut-être vous aussi. Et en repensant aux évangiles, en pensant à Jésus, je me dis, mais il n'a pas tellement parlé de l'Église, ou alors il en a parlé tout le temps. Mais est-ce que l'Église, telle qu'on la vit maintenant, je me disais même, est-ce que l'armée du salut, ça ressemble à ce qu'il avait prévu? Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, Jésus? Heureusement, on n'est pas dans sa tête, mais il a donné tellement. Jésus, c'était quelqu'un qui était respectueux du temple, il s'y rendait, il enseignait, il allait dans les maisons de prière juives. Pourtant, il respectait pas tout à fait toutes les règles que les gens auraient voulu qu'il respecte. Hein, il était, il amenait autre chose, il amenait la discorde parfois. Et surtout, il était un peu révolutionnaire. Et le ministère de Jésus, il était tellement itinérant. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église? On voit ce Jésus qui marche, qui va avec ses disciples, avec les foules. On a l'impression qu'il ne se fixe jamais, qui va, qui revient dans des fois les mêmes endroits, les mêmes maisons, dans les mêmes familles. Il revient souvent chez Marie et Marthe, Lazare, il avait ses amis. Il s'arrête dans les maisons de prière aussi. Et souvent, il marche. Puis quand il ne marche pas, puis qu'il s'arrête, c'est un peu l'impression que j'ai, hein, en tout cas, mais il mange. Je ne sais pas si c'est cette impression que vous avez, hein. Il s'arrête et il mange, soit c'est les mariages, soit c'est les fêtes, soit c'est il est invité à manger. Et là, il parle, là, il vit, là, il est lui-même. Il guérit, il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires. Et comme il transmet un message un peu sans en avoir l'air, hein, il parle. Ceux qui l'écoutent, ceux qui ont envie l'écoutent, ceux qui n'ont pas envie ne l'écoutent pas. Et puis il est là, il vit la vie avec les gens. Et puis je me rends compte aussi qu'on a les évangiles, c'est tellement court sur 3 ans. Même temps, 3 ans c'était court. Et puis on a peut-être une image un peu faussée, il vivait la vraie vie avec les gens. Et je pense que les films très intéressants comme The Chosen ou d'autres nous montrent qu'il n'était pas juste là pour parler et puis il repartait. Il a vraiment vécu la vie avec les gens. Et peut-être ça nous manque un tout petit peu. On a tendance à passer d'un discours à l'autre sans imaginer tout. Chaque fois que Jésus se reposait, chaque fois que Jésus dormait, où c'est qu'il habitait. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que Jésus nous a laissé? Et puis, il nous aide pour apprendre à organiser l'Église. L'Église, j'ai essayé d'écouter aussi un petit peu différentes choses. L'Église, c'est bien organisé. L'Église, ça date de bien avant l'armée du salut. L'Église, l'Église catholique, l'Église dont les gens parlent. Est-ce que c'est de ça qu'on veut parler ce matin ? L'Église catholique, l'Église organisée, l'Église avec des grands bâtiments, l'Église avec beaucoup, beaucoup de choses. Et tout ça, c'est l'Église, et tout ça, ça nous rejoint peut-être qu'à moitié. Et pourtant, c'est bon de se rappeler qu'à travers les siècles, eh bien, des hommes et des femmes qui sont partis de ces 12 disciples ont été l'Église. Je ne sais pas s'ils ont fait l'Église, mais ils ont été l'Église. Et puis, tout ce que les chrétiens ont laissé, je trouve aussi des fois intéressant, on oublie. On oublie comment le monde s'est développé au travers des chrétiens. Toutes les questions médicales, les questions d'éducation, les questions même de politique. Hein, et vraiment, les chrétiens ont changé beaucoup de choses dans le monde. Et ça a été repris par le monde, ça a été laïcisé. Et on a l'impression que ça n'appartient plus aux chrétiens. Mais les chrétiens ont fait un travail extraordinaire et ont suivi le parcours itinérant de Jésus-Christ. Alors, est-ce que l'Église, est-ce qu'on peut dire le poste de l'armée du salut d'Orbe, ressemble à ce que Jésus avait en tête? J'espère que oui. Et je pense que c'est une question à continuellement nous poser. Nous poser parce que c'est certainement quelque chose qu'on restreint à une manière d'organiser. Alors évidemment, on a toutes les épîtres. Ça aurait été peut-être un peu plus facile d'avoir la question comme au Paul, quelle église Paul avait en tête, ou Pierre, ou comme ça. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais Jésus, vraiment Jésus, il a dit peu de choses et dans tellement de sujets. Et encore aujourd'hui, dans les questions de société, tellement de questions sont difficiles. Et on se dit, mais pourquoi Jésus n'a pas dit des choses plus clairement parfois? Vous vous posez aussi cette question? Alors je crois que ce n'est pas qu'il n'a pas osé, ce n'est pas qu'il s'est dégonflé, c'est qu'il a donné le principal. Il a donné ce qu'il fallait. Et je crois qu'il a fait juste. Et je crois qu'il n'a pas oublié. Et je crois, même si des fois je trouve qu'il aurait pu rester un peu plus longtemps, hein, 3 ans c'est un peu court. Je dis souvent, quand on est officier de l'armée du salut, 3 ans quelque part, ils nous laissent élus quand même encore un peu plus longtemps. Et Jésus, pour ce ministère qu'il avait seulement 3 ans, waouh, c'est peu de choses. Et il a laissé... Je ne sais pas s'il a laissé une église fragile, mais il a laissé des disciples hyper fragiles, pas finis. Il n'y a rien qui était fini après 3 ans. Alors est-ce que, si rien n'était fini après 3 ans, est-ce qu'aujourd'hui c'est fini? Ben non. Et j'aime aussi, j'ai bien aimé ton témoignage, Jimmy, dire on est en route, on avance, c'est pas parfait. Et l'église parfaite, elle n'existe pas. Et si elle existait, Jésus serait revenu. Et si elle existait, parfois je me dis même que si l'Église parfaite existait, on n'aurait plus besoin de lui, parce qu'on fonctionnerait sans lui. On ferait toutes les choses bien, on serait nickel, on s'aimerait, on serait waouh, et puis on oublierait peut-être qu'on a besoin de lui. Alors, dans toutes ces choses-là, je me suis arrêtée sur Jean 17. Je ne suis pas sûre que Jean 17 nous dit comment faire l'Église, mais Jean 17, c'est vraiment le testament de Jésus. C'est ce que Jésus nous laisse, des paroles extraordinaires, des paroles fortes, et puis en même temps des paroles aussi énigmatiques, qui ne disent pas tout, qui ne répondent pas à la question de ce matin complètement, comment Jésus... quelle église Jésus avait en tête. Mais ce chapitre est extraordinaire parce qu'il vient à la fin du ministère de Jésus, justement, après qu'il ait annoncé qu'il allait partir, qu'il allait mourir, qu'il allait rejoindre son Père. Et c'est une prière. Jésus parle à son Père et il nous parle à nous en même temps. Nous, on doit faire attention, hein, quand on prie, de ne pas prier pour ceux qui nous écoutent, et puis de profiter de dire plein de choses aux gens qui nous écoutent quand on prie. Mais on est bénis par les prières les uns des autres aussi. Et ça, c'est une réalité. Et c'est important de se dire que peut-être que Jésus avait en tête pour l'Église qu'elle soit priante, qu'elle prie, des gens qui prient ensemble. Ça, je pense qu'on peut le dire sans se tromper. Alors, je vous invite à lire avec moi le chapitre de Jean 17. J'ai pris dans Paroles de vie. Certainement que beaucoup d'entre vous connaissez ce chapitre extraordinaire qui s'appelle aussi la prière sacerdotale. Et c'est Jésus qui prie pour ses disciples, qui prie pour lui, qui prie son Père. Donc, après que Jésus a dit cela, donc il allait partir, il a aussi dit, il ne reparle pas dans ce chapitre, mais je crois que c'est à tous les versets, c'est inclus dedans, qu'il enverrait son Saint-Esprit, qui permettrait vraiment de pouvoir vivre ce que Jésus demande dans Jean 17. Je lirai dans Parole de vie. Je ne sais pas si c'est la même version. Ce n'est pas la même. Hein. Alors, soit vous suivez, soit vous écoutez comme vous voulez. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils, pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors, il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire apparaît en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi, Père Saint. Garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi. Nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints, c'est réalisé. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces choses dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde. De la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Alors, ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Je ne te prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croient en moi à cause de leurs paroles, à cause de ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tout soit un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ainsi, ils seront un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi. Ainsi, ils seront parfaitement un. Alors, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Cette unité, cette chose qui reste un mystère, comment Dieu et Jésus sont unis? Comment ils sont dans cette relation une seule personne? et qu'ils veulent avec nous inclure. Nous sommes aussi dans cette même relation. Et c'est ça l'Église. Et parfois, on cherche peut-être à être un ensemble, à être tous d'accord, à être tous unis. Et cela est juste et bien, mais la seule possibilité de l'être réellement, c'est d'être unis au Christ. Et c'est dans cette union avec lui, comme cette même image qu'il a, cette dépendance qu'il avait de Dieu, hein, pendant son ministère, pendant son temps sur la terre, il était complètement uni avec son Père. Et c'est de cette unité-là qui fait l'Église, qui fait qui nous sommes. Cette Église envoyée, j'ai beaucoup aimé le premier chant qu'on a chanté, « Ne nous envoie pas dans le monde ». Et là, Jésus, dans cette prière, il envoie justement les chrétiens, il envoie ses disciples, il nous envoie dans le monde. Et j'aimais tellement ce chant qu'on chantait à la chorale à Genève, que ma collègue m'a fait une lampe avec les paroles de ce chant. Alors j'ai dans mon salon une lampe avec les paroles de ce chant. « Ne nous envoie pas dans le monde sans toi, sans ta bénédiction, sans ta force, sans ton esprit. » Et je crois que ce n'est pas son choix, ce n'est pas son désir de nous envoyer tout seul. Justement, c'est d'être unis à lui. Et il le répète, il le redit, Jésus, dans cette merveilleuse prière, qu'on est dans le monde, qu'on n'est pas du monde, mais qu'on est pleinement dans le monde. Et ce n'est pas facile. Et ça ne l'est pas de plus en plus. Ce monde qu'on ne comprend plus, ce monde qui nous effraie parfois, ce monde... Je ne sais pas si vous avez parfois ce sentiment où on a l'impression qu'on est de plus en plus décalé comme chrétien, parfois. Et puis en même temps, complètement dans ce monde, comme Jésus. Alors il nous équipe, et je trouve extraordinaire que Jésus prie vraiment pour ses disciples. Hein. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux qui t'appartiennent et ceux qui croiront. Est-ce que quand vous lisez ça, vous arrivez à vous dire « Jésus a prié pour moi ce jour-là ». Alors on fait partie de la foule, on fait partie de la masse, on fait partie de tous ceux qui croiront. Mais de pouvoir peut-être s'arrêter et puis mettre notre nom. « Jésus a prié pour toi ce jour-là et il a mis ton nom. » Il a prié que tu sois uni au Christ. Que tu sois uni dans cette relation qu'il avait avec le Père. Et ça suit d'ailleurs Jean 15, hein, uni aux cèpes, les sarments, proches de Dieu. Et ce miracle-là, il a été fait par Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il est venu de la gloire, il est retourné dans la gloire, même s'il y a un mystère qui nous dépasse. Et heureusement, je crois, il y aura toujours des mystères qui nous dépasseront. Parce qu'on ne connaîtra jamais Dieu, on ne connaîtra jamais Jésus-Christ de tout savoir, de tout comprendre. Et c'est ce qui fait qu'il est Dieu, qu'il est plus grand que nous. Et nous, nous avançons à tâtons. Nous avançons parfois avec force, parfois avec faiblesse. Mais nous avançons dans la mesure où nous restons unis à Christ, où nous nous replongeons dans son amour, dans qui il est, dans comment il veut nous garder proches de lui. Et ce que je trouve extraordinaire aussi dans ces versets, c'est que il n'est pas tellement dit qu'on doit aller parler de lui partout. Il y a d'autres versets qui le disent, hein, d'être ses témoins par la parole aussi, d'annoncer la parole. Mais là, c'est plus dans qui on est, dans cette relation que nous avons avec Dieu. Et il est dit, tu l'as dit aussi dans ton verset quand tu as tout dit, Adrienne, hein, que c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde verra. Et ça va dans ce même sens. Mais ce qui me touche encore plus fort là-dedans, c'est que le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Le monde saura que Dieu nous aime. Waouh ! Comment est-ce que le monde peut savoir que Dieu nous aime ? Alors on peut le dire, hein, mais bon, voilà, qu'est-ce que c'est des mots. Alors on peut le dire de mille façons, on peut rapper, on peut. Mais comment ça se voit qu'on est aimé de Dieu? C'est une question qui m'a souvent questionnée aussi. Est-ce que on voit que je suis aimé de Dieu? Peut-être bien sûr par ma façon d'aimer les autres, j'espère. Et c'est ce qui me donne la force d'aimer, parce que je suis aimée par Dieu. Mais je crois qu'il y a une marque, il y a quelque chose qui se voit. Et c'est peut-être quelque chose que nous, on ne voit plus. Vous savez, ce que Dieu fait, on est peut-être habitué. On a même parfois des atmosphères où il y a la présence de Dieu, on s'y habitue, puis c'est normal pour nous. Mais il y a des gens de l'extérieur qui sentent, qui voient des choses que nous, on ne voit plus. Et je me souviens d'un témoignage à l'hôtel Belle Espérance, il y a une employée qui a commencé, et puis elle a fait qu'une semaine, elle a dit « Non, je ne me sens pas bien ici, il y a quelque chose, il y a une atmosphère qui ne me convient pas. » C'était un peu bizarre, hein. Et je crois qu'il y avait quelque chose de spirituel, clairement. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis, mais il y a des choses parfois qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais la présence de Dieu, elle est là. Elle est là, je crois, dans nos lieux de culte, dans nos salles, j'espère, dans chaque fois qu'on se réunit. Elle est là parce que le Saint-Esprit est en nous. Hein, ce temple aussi, l'Église, si on parle de l'Église, on parle du temple, on parle que le Saint-Esprit est en nous, le temple du Saint-Esprit, c'est chacun de nous, l'Église, c'est chacun de nous de manière individuelle, et du coup, c'est aussi ensemble, mais la présence de Dieu. Alors j'espère qu'on la sent encore, qu'on s'en rend compte, peut-être qu'on doit se souvenir, j'essaye, vous savez... Ce Saint-Esprit, souvent, je me suis dit, ça doit tomber dessus, c'est Saint-Esprit qui vient sur moi. Et puis, en réfléchissant, il est en moi. Hein? Alors, je dois aussi lui laisser la place, parce qu'il peut être en moi et bien endormi si je... voilà, mais de me réveiller davantage en disant, mais Saint-Esprit qui est en moi. Je n'ai pas besoin que tu tombes sur moi, mais tu es en moi, prends la place, agis. Donne-moi d'être sensible davantage à ton Saint-Esprit, en moi, mais aussi dans le monde. Alors, voilà, je crois que l'Église, c'est tous les croyants. C'est pas juste nous, c'est pas juste une communauté. Et je crois de plus en plus, c'est tellement important, même si ça nous défie aussi. C'est des gens tellement différents les uns des autres. C'est des gens qui nous désarment parfois. Et je ne sais pas quel est le regard de Jésus sur tous les chrétiens, toutes les églises, tous ceux qui se disent, se réclament de lui. Mais c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi? Quel est le regard que Dieu a sur moi? Et comment j'accepte d'être dans cette unité avec lui? Je prends le temps d'être dans l'intimité avec lui. Parce que ça prend un peu du temps, ça prend de le réaliser. Ça prend d'être parfois moins dans l'action que dans la contemplation. Et peut-être que ça, on a besoin de le retrouver. Il y a des églises qui sont beaucoup plus dans la contemplation que d'autres. Alors... Dieu aime ça aussi, mais comment moi je prends ce temps de le contempler? Comment nous prions ensemble d'être unis à Jésus? Et je crois que nos défis, tous les défis de l'Église, ils vont continuer. On va continuer d'être une Église pas parfaite. On va continuer d'être une Église à l'image de ce que nous sommes. Mais nous aimerions que la présence de Jésus, l'unité, soit en chacun de nous. On aimerait, je crois que l'Église, c'est ça, c'est s'encourager les uns les autres à cette unité avec le Christ. Comme Jésus, dans sa prière, encourage à être un, explique cette relation que Jésus a avec son Père, cette dépendance, cette chose qui est extraordinaire et qui nous dépasse. Mais il nous inclut, il nous prend avec, même si c'est plein de mystères, même si on n'y arrive pas toujours, pas encore, pas complètement, on est en marche. Et il nous a donné la gloire dans le verset 22, il nous a donné cette gloire. Et puis j'aimerais terminer avec le verset 24. Père, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as donné avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je vais encore te faire connaître à eux. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux et moi aussi je serai en eux. Et je crois que c'est cette promesse que Jésus a fait à l'Église, que Jésus nous fait à chacun personnellement, d'être tous les jours avec nous, d'être là encore, d'être à nos côtés, de nous enseigner, de nous parler et de rayonner de sa présence dans ce monde. Alors l'Église, c'est la présence de Jésus dans le monde. Et l'Église, c'est le dimanche matin quand on est réunis. L'Église, c'est le lundi matin quand je pars au travail, quand je suis plus ou moins bien, plus ou moins content, quand j'ai des soucis, quand tout va bien. Nous sommes l'Église, la présence du Christ. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et permette que vraiment on s'encourage les uns les autres à être des chrétiens, des enfants de Dieu, où c'est visible que nous sommes aimés.